Il est 8h.
Il y a une pandémie sanitaire et une pandémie numérique actuellement. Il faut renforcer très rapidement les effectifs, renforcer aussi une politique pénale. Véritablement, il y a une urgence.
Urgence pour lutter contre la cybercriminalité. L'alerte de cette magistrate, piratage, détournement de fonds, attaque de systèmes informatiques d'État. Le cybercrime coûte chaque année près de 9 millions d'euros par entreprise française. C'est un début de campagne présidentielle qui s'esquisse. Ces derniers jours, Emmanuel Macron est attaqué par la droite sur le bilan de sa politique migratoire, mais des critiques qui viennent aussi de son propre camp, vous l'entendrez. Et puis, à la veille de la demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City, on vous raconte l'histoire qui se cache derrière ce match, histoire de guerre d'influence entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, le philosophe et cofondateur de la revue Front Populaire, Michel Onfray. Lutte contre l'islamisme, projet civilisationnel et immigration. Une interview à l'image de l'invité, sans tabou ni langue de bois. Rendez-vous à 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. Il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de Simon Rubin.
Bonjour Simon. Bonjour, bonjour. Selon l'adage que vous connaissez peut-être, il paraît que le crime ne paye pas. Le cybercrime, en revanche, paye et il paye bien. C'est le constat d'un rapport du Club des juristes d'Europe 1. On vous dévoile ce matin en exclusivité. La cybercriminalité va peser 6 000 milliards de dollars en 2021. Pour vous donner une idée, c'est deux fois plus que les richesses produites par la France sur une année. Alors qu'on soit bien d'accord, on parle de piratage de haut vol, genre de piratage qui permet de détraquer des centrales électriques, de paralyser des pays entiers pendant des heures. C'était arrivé à l'Estonie en 2007. Cela représente un coût colossal et Marion Dubreuil, les forces de sécurité, magistrats, entreprises, assurances, dressent le même constat alarmant.
Oui, personne n'est épargné. 90% des entreprises ont été impactées en 2019. Près de la moitié sont des PME. Le télétravail a accentué le phénomène et c'est devenu la source de 20% de la cybercriminalité. 5 dollars, c'est le prix moyen d'un virus informatique. Et cela rapporte très gros. Si le risque cyber poursuit sa croissance annuelle de l'ordre de 15%, il pèsera plus de 10 000 milliards de dollars d'ici 4 ans. Le numérique, c'est le nouveau terrain de chasse du crime organisé, responsable de plus de la moitié des cyberattaques, nous rappelle Myriam Kemener, avocate générale à la Cour d'appel de Paris.
Les réseaux mafieux se mettent en contact avec des informaticiens, en particulier l'ancien bloc soviétique, où il y a des compétences en mathématiques, en informatique, mais peu d'emplois. Il y a une pandémie sanitaire et une pandémie numérique actuellement. Il faut renforcer très rapidement les effectifs, renforcer aussi une politique pénale. Véritablement, il y a une urgence.
Le Club des juristes enjoint donc le gouvernement à faire de la cybersécurité une cause nationale dès l'an prochain pour améliorer notamment l'entraide internationale et lutter contre les pays sanctuaires qui sont aujourd'hui les paradis fiscaux des cybercriminels.
Marion Dubreuil, et on rappelle ce chiffre, vous le donniez Mathieu il y a quelques instants, la cybercriminalité coûte chaque année près de 9 millions d'euros par entreprise française.
Et pour se défendre face à cette nouvelle menace numérique, il faut que tout le monde s'y mette, des particuliers jusqu'au sommet de l'État en passant par les entreprises bien sûr, c'est ce que demande Bernard Spitz, président de la commission cyber-risque au Club des juristes.
C'est bien d'avoir tous les instruments de riposte, à condition qu'ils fonctionnent bien entre eux. L'industrie, la recherche, l'université, l'armée, etc. C'est pas que le gouvernement, c'est tout le monde. C'est-à-dire, justement, un rapport comme celui-là, je pense que tout l'écosystème qui va du MEDEF aux différentes organisations, aux fédérations, et je pense notamment à l'assurance, puisque j'en étais le président, mais surtout, l'assurance, c'est le moyen de sensibiliser les entreprises. Vous savez, chez vous, les gens ont compris que c'était mieux d'abord de ne pas laisser les fenêtres ouvertes, ensuite de mettre des portes blindées, etc. Ben, c'est exactement la même chose. Et il faut savoir que ce sont beaucoup d'erreurs humaines ou de manque d'attention qui provoquent les brèches qui permettent ensuite, dans des entreprises, dans des PME ou dans des foyers, à des pirates de s'infiltrer.
Bernard Spitz, qui était l'invité du 5-7 de Théo Manval. Plus d'une femme sur 10 a fait une fausse couche dans sa vie. 23 millions de femmes dans le monde. Chiffre fort et méconnu, révélé dans un rapport pour la revue scientifique The Lancet. Un phénomène majeur, pourtant mal traité par les politiques publiques en général. C'est ce que déplore l'une des rédactrices de l'étude. On parle là d'un tabou très fort dans nos sociétés. Vous vous souvenez peut-être qu'en novembre dernier, c'est l'épouse du prince Harry, Meghan Markle, qui avait raconté avoir elle-même fait une fausse couche.
Une nouvelle arme dans la lutte contre le Covid en France, les tests antigéniques et autotests pour les jeunes.
La Haute Autorité de Santé les autorise pour les moins de 15 ans et l'organisme en recommande même un usage régulier à l'école pour briser les chaînes de contamination. Johanna Chabas.
Selon l'organisme, ces tests par prélèvement nasal offrent une rapidité de résultats, entre 15 et 30 minutes pour savoir si l'on est positif. Ils sont également moins invasifs que les tests PCR car les écouvillons vont moins loin dans le nez. Ils sont donc plus adaptés aux jeunes enfants et peuvent être utilisés de manière répétée. Autant de qualités qui font de ces tests des outils pour casser les chaînes de contamination à l'école, conclut la Haute Autorité de Santé. Elle recommande que ces tests soient réalisés au moins une fois par semaine en milieu scolaire avec différentes règles selon les âges. Les collégiens pourront le faire eux-mêmes comme les lycéens et les étudiants. Pour les élèves en primaire, il est préférable qu'un parent ou qu'un personnel formé s'en charge. Et pour les enfants en maternelle, le test devra impérativement être réalisé par un adulte.
Et concernant les chiffres de l'épidémie en France, on est repassé au-dessus des 6000 malades en réanimation.
Et c'est dans ce contexte que le dispositif des élections régionales se précise.
Après une réunion hier autour du ministre de l'Intérieur avec des représentants des partis politiques, des groupes parlementaires, les associations d'élus, et sont prévues un certain nombre de mesures, notamment pour limiter le risque sanitaire durant le scrutin. Hélène Terzian.
Ceux qui diront à voter seront vaccinés en priorité. Le jour du scrutin, non seulement un protocole sanitaire strict sera appliqué, mais la clé, c'est donc la vaccination. Tous les membres des bureaux de vote, présidents, assesseurs, secrétaires et les fonctionnaires municipaux mobilisés recevront une attestation délivrée par le maire. Ils pourront alors se faire vacciner dans des créneaux réservés dès maintenant et ce jusqu'au 5 juin. Le soir du vote, si vous souhaitez dépouiller les bulletins, la priorité sera donnée aux personnes vaccinées ou immunisées. Sinon, il faudra disposer d'un test négatif de moins de 48 heures. Enfin, pour limiter la circulation du virus, des bureaux de vote en extérieur pourraient être autorisés. Selon nos informations, la campagne est elle aussi adaptée. Un candidat et son équipe pourront déroger au couvre-feu pour faire du porte-à-porte par exemple. En revanche, malgré la demande de certains partis, les meetings en intérieur et en extérieur seront interdits. Les plus malins retiendront que les manifestations, même statiques, restent autorisées à condition d'avoir été déclarées en préfecture.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1 à ces élections régionales 20 et 27 juin. Et puis c'est la dernière étape aujourd'hui du Brexit, ça y est, on entrevoit enfin le bout du tunnel sous la Manche après des mois de négociations qui avaient abouti, vous vous en souvenez peut-être, à un accord commercial in extremis. C'était juste avant Noël, le 24 décembre. Eh bien, le Parlement européen devrait voter et approuver cet accord aujourd'hui.
Vous restez avec nous. Après la pub, on vous parle de cet échec d'Emmanuel Macron en matière de politique migratoire. Oui, le mot échec, le mot est fort. Il ne vient même pas de l'opposition, mais des proches conseillers du président. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h09, la suite du journal Simon Rubin.
Depuis quelques jours, le débat politique s'est polarisé autour d'un sujet, l'immigration et plus précisément le bilan migratoire d'Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs Valérie Pécresse sur notre antenne dimanche qui avait donné le ton en ciblant le laxisme du président sur la question. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, on s'intéresse à la manière dont l'entourage d'Emmanuel Macron juge sa politique en matière de migration. Louis Dragnel, vous nous expliquez ce matin qu'au sein du gouvernement, plusieurs conseillers sont eux aussi dubitatifs sur l'action du président en 4 ans.
Absolument. Le constat est cinglant. La politique migratoire d'Emmanuel Macron est un échec du quinquennat. Et ils poursuivent, nous nous étions engagés à accueillir moins de personnes en France, mais mieux. La réalité, c'est que 2019 a été une année record de titres de séjour délivrés.
Quelles raisons sont invoquées par vos interlocuteurs lorsqu'ils parlent d'un échec ?
Il y en a beaucoup. Je vous en donne 5, ce sont les principales. Premièrement, c'est la générosité de notre protection sociale et de notre système de santé unique au monde. Deuxièmement, c'est ce que mes interlocuteurs soulignent avec le plus d'amertume, 96% des personnes déboutées de leur demande d'asile, après examen de leur dossier, ne quittent pas le territoire. Ils formulent souvent un recours et restent en France. Ça, c'est pour les demandeurs d'asile. S'agissant des obligations de quitter le territoire français, ce sont des clandestins ou des personnes en fin de droit. Là, c'est encore 85% des expulsions qui ne sont pas exécutées. Je vous donne un ratio, 120 000 personnes concernées en 2019, moins de 19 000 expulsions effectives. Troisième raison, toujours selon nos sources, Algérie, Maroc et Tunisie, les trois premières nationalités en nombre de demandes de titres de séjour, eh bien ces pays refusent de reconnaître environ la moitié des ressortissants que la France cherche à expulser.
Et je précise, hein, Louis, les arguments que vous donnez là, ce sont ceux de conseillers politiques proches d'Emmanuel Macron. Il faut d'ailleurs rappeler à nos auditeurs que sur l'attrait, par exemple, de notre système de santé dont vous parliez, on est sur une thèse très discutée par les experts, les économistes, hein, qui maîtrisent ces sujets. Alors, autre raison qui expliquerait, Louis, réjouit l'échec de la politique française, selon les proches du président. Le poids des étudiants étrangers.
Oui, car ils viennent, mais ne repartent pas toujours. Ils représentent 30% des 276 000 titres de séjour délivrés en 2019. Le problème, c'est que souvent, ils ne respectent pas leur engagement de départ, c'est-à-dire le retour dans leur pays d'origine à la fin de leurs études. Et on se retrouve parfois dans la situation où certains pays en développement réclament auprès des autorités françaises le retour de ces étudiants pour servir leur pays.
Finalement, l'immigration économique est assez marginale.
Absolument. Elle pèse moins de 10% du total. C'est le cas du terroriste de Rambouillet, un clandestin qui a obtenu un titre de séjour après avoir signé un contrat de travail. Et la dernière raison invoquée par ses conseillers de l'exécutif, c'est la porosité de nos frontières. C'est pour ça que les effectifs de police dédiés à leur surveillance vont augmenter. Et puis, il y a une échéance importante. La France présidera l'Union européenne dès le début de l'année 2022. Et Emmanuel Macron entend bien profiter de cette opportunité pour réformer l'espace Schengen.
La politique migratoire d'Emmanuel Macron, question, analyse, décryptage signé Louis Dragnel.
PSG Manchester City, c'est demain, c'est une demi-finale de Ligue des Champions, un choc footballistique mais aussi une bataille d'influence.
Guerre d'influence entre le Qatar, propriétaire du PSG, et les Émirats Arabes Unis, propriétaires de Manchester City, deux États voisins riches de pétrole et de gaz, grands rivaux qui entretiennent des relations tendues. Pour eux, le foot, c'est un peu la continuation de la guerre par d'autres moyens. Cyril de la Morinerie.
Oui, d'un côté le Qatar, organisateur de la prochaine Coupe du Monde, qui a investi plus d'un milliard d'euros dans le club parisien depuis sa reprise en 2011. De l'autre, les Émirats Arabes Unis qui ont fait prospérer Manchester City en dépensant 2 milliards d'euros depuis 2008. Le propriétaire, le Cheikh Mansour, détient désormais via sa société City Football Group une dizaine de clubs dans le monde, dont 3 en France. Si ces deux micro-États ne se font pas la guerre, ils s'affrontent notamment sur les terrains de football, confirme Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, le centre de recherche français dédié aux relations internationales.
On est dans le prestige, on est dans le soft power, on est dans l'image. Et la compétition entre les deux rivaux du golf est toujours aussi vive et il sera extrêmement important pour chacun de gagner pour bien marquer son territoire.
L'éphémère Super League est un autre exemple de cette guerre d'influence. Manchester City, qui s'était lié à 11 autres clubs pour créer un tournoi privé, s'était opposé au PSG. Un bras de fer emporté par le président parisien Nasser Al-Khelaifi qui espère demain soir un autre succès sur son rival.
Cyril de la Morinerie qui sera au stade pour Europe 1, match en intégralité demain soir.
Merci Simon Rubin, Cyril de la Morinerie, Vénard qui sera au stade.
Oh. Il va travailler surtout, évidemment.
Oui, Ligue des Champions cette semaine, merci Simon Rubin. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h14 dans un instant, Sonia Mavro, question d'invité, le philosophe Michel Onfray. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mavro, question d'invité ce matin, le philosophe Michel Onfray, auteur de La Nef des Fous aux éditions Robert Laffont.
Bienvenue à vous et bonjour Michel Onfray.
Bonjour.
Depuis plusieurs jours, il est dit que notre main ne tremblera pas face au terrorisme islamiste. Emmanuel Macron réaffirme qu'on ne cédera rien. On ne cédera rien. Vous croyez vraiment au sursaut ?
Ah ben, ils vont pas trembler, là. Elles vont pas trembler, leurs mains, ils n'ont pas de main, donc il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est le retour du blabla, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose a lieu sur le principe du terrorisme, ça ne passera pas, hein. On sera extrêmement sévère, on va retrouver les coupables, alors si les coupables sont tués, ça ne se reproduira pas, etc., etc. Mais plus personne n'y croit. C'est simplement que plus personne n'y croit. La parole présidentielle est totalement dévaluée, la parole des gens qui sont au pouvoir est totalement dévaluée. On leur demande pas de parler, on leur demande d'agir, on leur demande pas de créer des nouvelles lois en disant nous allons faire un nouveau projet de loi qui va nous permettre de dire, eh bien voilà, vous n'aurez pas le droit de tuer, vous n'aurez pas le droit d'égorger, et puis ce sera pas bien, et si vous prenez le risque de dire que vous êtes pour les égorgeurs, eh bien, on vous dira qu'il y a un blâme, puis au bout de 50 blâmes, vous aurez un avertissement, puis 50 avertissements, etc., etc. C'est-à-dire, on sait très bien aujourd'hui que ces gens-là sont sur les réseaux sociaux, et que sur les réseaux sociaux, ils applaudissent absolument tout ce qui est Daesh, tout ce qui est décapitation.
Mais alors, comment fait-on ? Parce que si la riposte juridique, si la riposte sécuritaire ne suffit pas, comment on lutte aujourd'hui contre une haine ?
Avec une volonté politique. Avec une volonté politique. Je pense qu'il y a un intérêt à l'islamo-gauchisme qui est de détruire la nation, de détruire la souveraineté nationale, de détruire la France, l'histoire de France, tout ce qui constitue la France, parce qu'il faut diluer tout ça pour faire une grande Europe qui sera un jour un rouage dans une grande machine qui permettra un très grand marché, en fait, tout ce qui est acide et qui peut détruire la France est formidable. Donc évidemment, tous les gens qui sont dans une logique souverainiste, eux, sont des fascistes et on
dont
peut fermer
vous,
leur
dont
compte.
Dont vous, on parlera d'ailleurs, voilà, des critiques que vous subissez depuis un certain temps, Michel Onfray, mais vous parlez régulièrement d'effondrement. Pourquoi, selon vous, on n'est pas capable d'assumer, de porter nos valeurs ?
C'est pas qu'on n'est pas capable, c'est qu'on ne veut pas. Il y a des valeurs, elles existent, mais on ne veut pas porter ces valeurs.
La majorité de Français le veulent.
Oui, je pense que le pouvoir n'a rien à faire de la majorité des Français. C'est-à-dire que quand
quelle que soit sa couleur.
Tous les Maastrichtiens, finalement, qu'on dira de droite et de gauche, mais tous ces Maastrichtiens-là n'en ont rien à faire. C'est-à-dire que quand le peuple dit « nous ne voulons pas du traité européen parce que nous aspirons à une autre Europe », on leur dit « votre volonté, on la met à la poubelle ». Et on va décider sans vous et indépendamment de vous. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on pourrait avoir des référendums, y compris des référendums sur un certain nombre de sujets. On pourrait dire, après tout, toutes les questions de civilisation peuvent être soumises à des référendums.
Exemple, la question migratoire.
Ben, c'est ce que j'allais vous dire. Par exemple, pourquoi a-t-on peur du peuple ? Parce qu'il y a dans le peuple un bon sens dont on ne veut pas. Il ne s'agit pas d'écouter le peuple parce qu'on n'est plus en démocratie. On est dans une espèce d'oligarchie avec un certain nombre d'individus qui, eux, font avancer leur idéologie. Et dans leur idéologie, il y a intérêt, effectivement, à tout ce qui dissout la nation, la France, la civilisation et les cultures.
Mais alors, imaginons qu'il y ait ce référendum et une question sur les flux migratoires. Et si on allait plus loin, est-ce qu'il y a un lien entre immigration et radicalisation islamiste, selon vous ? Est-ce que c'est tabou aujourd'hui de le dire, de le penser, d'y réfléchir même ?
Oui, c'est interdit de le dire, parce que de toute façon, toute démographie est interdite. La démographie, elle est fasciste, puisqu'elle dit la vérité, alors qu'il y a des gens qui nous disent que la vérité n'est pas très intéressante. Ce qui est intéressant, c'est l'idéologie. Et par idéologie, aujourd'hui, on va d'abord se dire, mais finalement, est-ce qu'on défend celui-ci ou est-ce qu'on défend celui-là ? On voit bien comment les islamo-gauchistes, aujourd'hui, finissent toujours par trouver des excuses aux criminels et finissent toujours par estimer que les bourreaux sont des victimes, les victimes sont des bourreaux. Cette inversion des valeurs, elle n'est plus possible, elle n'est plus pensable auprès des gens qui réfléchissent. Et le bon sens populaire est un bon sens qui réfléchit.
Mais pour vous, ce que vous dénoncez ont une part de responsabilité dans ces actes aussi graves, dans cette barbarie islamiste ? Est-ce que le fait de dire que la police est de manière structurelle raciste, qu'elle est violente de manière systématique, est-ce qu'aujourd'hui ces gens-là ont une responsabilité importante et lourde ?
Mais bien sûr, mais en même temps on a envie de diluer la police, on a envie de diluer l'armée, on a envie de diluer la justice, il ne faut plus rien de tout ça. Il faut une espèce de vaste jungle dans laquelle on retrouve les principes de la horde primitive racontée par Darwin. On est dans une logique de début de l'humanité où effectivement la loi est faite par les plus forts, par les plus violents, par les plus brutaux, et on laisse faire. On a une justice qui n'est pas totalement juste, ça se voit. On a une police qui fait un travail extraordinaire mais qui n'est pas soutenue. On a une armée à qui on ne donne pas les moyens d'exister. Et on sait très bien que si on voulait que l'armée fasse son travail, que la police fasse son travail, que la justice fasse son travail, s'il y avait des décisions régaliennes, il faudrait pour ça d'ailleurs un État qui n'existe plus. Mais on a tout l'arsenal pour ça. Simplement, à chaque fois qu'il y a un problème, aujourd'hui, on va créer encore une nouvelle loi.
Les décisions régaliennes sont intimement liées à l'histoire. À ce sujet, sur la chaîne américaine CBS, en réponse à une question sur le débat autour de la race, Emmanuel Macron, tout en insistant sur les différences entre les États-Unis et la France, a appelé, d'une certaine manière, dit-il, à déconstruire notre histoire. Quel sens y avez-vous vu ?
Bon, je ne suis pas étonné. C'est un personnage qui est placé là pour ça, d'ailleurs. Par un système qui fait que moi j'ai gagné pas mal de caisses de champagne quand j'ai parié au présidentiel en disant je peux vous dire qui sera élu au second tour. Et on me disait t'es bien malin toi. Je dis mais je vais pas forcément vous donner le nom, mais je vais vous dire d'où il vient. Ce sera un Maastrichtien, de droite ou de gauche. Et regardez, depuis Mitterrand en 83, c'est la même idéologie, c'est la même ligne. Alors on fait semblant de se battre en disant oulala, c'est pas du tout la même chose. Nicolas Sarkozy ou alors François Hollande, c'est pas du tout la même chose. Jacques Chirac ou Emmanuel Macron, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même monde. Exactement la même idéologie.
J'en reviens, Michel Onfray, à l'entretien d'Emmanuel Macron sur cette chaîne américaine. Il faut contextualiser les propos du président qui insiste sur la nécessaire politique de la reconnaissance. Il estime qu'elle est indispensable pour maintenir l'unité de la France. Il est dans son rôle de chef de l'État.
Mais le problème avec Emmanuel Macron, c'est toujours recto verso, c'est avers et revers. Enfin, on a droit à tout et le contraire de tout. L'autre jour, il a dit les élections régionales ne seront pas... les dates ne changeront pas. Je me suis dit... Je prends le pari que dans la semaine, ça va changer. Et il a ajouté dans la foulée, elles seront juste déplacées d'une semaine. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête, cet homme qui ne peut pas dire
Pourquoi
une chose ?
Il y a plusieurs Emmanuel Macron, plusieurs facettes
et là,
du même personnage.
Et il y en a qu'un qui dit tout et le contraire de tout. C'est-à-dire, il ne peut pas dire, nous allons respecter la date sans ajouter, et en même temps, nous ne la respecterons pas.
Bon, sur ce sujet, d'accord, mais vous n'avez pas de doute sur le fait qu'il soit fier quand même de l'histoire de son pays, de la France et de notre pays.
Pas du tout. Je crois que quelqu'un qui est fier de la France ne dit pas qu'il n'y a pas de culture en France, ne dit pas qu'il faut déconstruire l'histoire de France.
Ça, c'était le candidat sur la culture. Est-ce
oui,
que depuis, il n'est pas revenu sur cela ?
Non, c'est le même homme. On voit bien, il n'a pas tranché sur des questions comme doit-on commémorer, par exemple, Céline, ou par exemple, la Commune, ou par exemple, exemple Napoléon, cette façon d'aller chercher un pou dans la tête de Napoléon en disant on l'a trouvé, et c'est bien la preuve qu'il ne faut pas commémorer cet homme-là, qui est une catastrophe ceci, une catastrophe cela. Enfin, on se dit, mais l'histoire de France, c'est quand même tout ça.
Mais est-ce qu'il faut la prendre comme un bloc ? Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître qu'il y a des zones d'ombre sans jamais occulter ? Et au contraire, il faut les sublimer, ces parenthèses lumineuses.
Il faut faire de l'histoire, c'est-à-dire ne pas se dire « je n'aime pas beaucoup Aristote parce que Aristote n'a pas lu Simone de Beauvoir ». Oui, Aristote n'a pas lu Simone de Beauvoir, et à cette aune-là, de toute façon, Aristote aura toujours tort, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse et quoi qu'il ait pu écrire. Donc à un moment donné, on ne peut pas demander à Napoléon d'être un homme du XXIe siècle. Il est un homme de son siècle, il est un homme de son temps, et qui à l'époque tenait les discours que nous tenons aujourd'hui. Le néo-féminisme n'existait même pas à l'époque de Simone de Beauvoir, donc pourquoi aurait-il existé à l'époque de Napoléon ?
Chercher à effacer l'histoire est une forme de décadence, vous avez l'habitude de le dire, et parmi les formes de décadence, il y a l'antisémitisme. Dimanche, il y avait un rassemblement très digne à la mémoire de Sarah Halimi. L'exécutif veut changer la loi, mais ça restera, selon vous, pour cette affaire, un déni de justice ?
C'en est un. C'est-à-dire cette façon de dire, si vous avez fumé un pétard, vous n'êtes plus justiciable. C'est-à-dire que vous avez le droit un peu de faire ce que vous voulez. Alors, il va falloir qu'on dise maintenant, vous avez le droit aussi de boire de l'alcool, de rouler en voiture, de tuer des gens.
Et si vous allez nous dire que c'est un permis de tuer qui a été délivré par la justice ?
Absolument. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'on force personne à fumer des pétards. Si on fume
les
un pétard,
les magistrats se sont offusqués de cela, de cette expression « permis de tuer ».
Ben oui, mais ils s'offusquent du réel. C'est simplement, on le constate, et comme par hasard, c'est une femme juive qu'on a tuée. Comme par hasard. Je ne suis pas bien sûr que si on avait d'autres couleurs, d'autres religions, ça se serait exactement passé comme ça. Et je pense que le pétard aurait pu être pour le coup une circonstance aggravante. Pourquoi est-ce une circonstance atténuante dans cette circonstance-là ?
C'est devenu aujourd'hui une circonstance atténuante, même si nous sommes d'accord que notre système ne juge pas les fous, ne doit pas juger les fous en tous les cas.
On n'est pas un fou quand on fume des pétards, ça se saurait. Ou alors si le pétard rend fou, alors arrêtons le pétard. Et puis interdisons-le, et puis criminalisons le pétard. On ne peut pas d'un côté défendre la légalisation du cannabis, et puis de l'autre dire que quand on a fumé du cannabis, on n'est plus soi-même. Si on veut effectivement légaliser le fait de ne plus être soi-même, d'échapper à soi-même, de ne plus être responsable, alors il faut le dire clairement, c'est soit l'un, soit l'autre. Si on légitime, eh bien effectivement, on est responsable quand on fume des pétards. Mais si on n'est plus responsable, alors il va falloir être extrêmement sévère sur la législation concernant le cannabis.
Tenter d'obtenir un procès en Israël, comme le souhaite la sœur de Sarah Halimi, pour la France, pour la société française dans son entièreté, c'est une défaite ?
Oui, c'est une défaite. On ne peut pas continuer à dire qu'à chaque fois qu'un juif est tué, c'est la République qu'on tue ou c'est la République qu'on offense, ce que je crois, comme avec qui que ce soit un musulman, que ce soit qui que ce soit. Hein, je veux dire. Mais, et puis de l'autre côté, laisser faire l'antisémitisme au nom de l'antisionisme en expliquant que, bah, après tout, on a bien le droit de ne pas aimer l'existence même d'Israël, que ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. On a aujourd'hui des gens qui écrivent ce genre de choses, ils trouvent des éditeurs, ils sont invités dans des émissions de télévision, on leur passe le micro, ils sont là comme des faiseurs d'opinion.
Question subversive, est-ce que ce n'est pas la liberté d'expression que vous défendiez tout à l'heure, quoi qu'il en coûte ?
Mais si c'est ça la liberté d'expression, on peut aussi inviter des gens comme Alain de Benoît par exemple, ou on peut aussi inviter Alain Soral, on peut aussi inviter Dieudonné, parce que si la liberté d'expression existe, elle est totale, et si elle est totale, on doit aussi inviter les équivalents des forissons, des négationnistes, des révisionnistes, et là pour le coup on pourra se réclamer de la liberté d'expression. Mmh. Moi la liberté d'expression parfois j'en mesure les limites, et il y a des endroits où je ne suis pas invité.
Justement, vous avez été maintes fois aussi attaqué, oui. Critiqué, comparé. Moi je me souviens, Michel Onfray, il n'y a pas très longtemps, à Doriot, à Marcel Déa, un collaborationniste,
oui.
Français.
Oui, oui. Ben oui, ça c'est la pensée de Bernard-Henri Lévy. On a vu ça aussi du côté de chez Jacques Julliard, chez Jean-François Kahn, chez Axel Kahn, qui sont allés de ce couplet. Alors évidemment, moi ça va, on peut me traiter de nazi, de fasciste, de pédophile refoulé,
non,
tout
vous
ça
avez
c'est
l'air
fait.
Serein.
Oui, et je n'ai jamais porté plainte contre qui que ce soit. Mais quand Bernard-Henri Lévy dit que je suis Doriot désormais, c'est-à-dire que je suis l'équivalent de quelqu'un qui porte l'uniforme nazi sur le front russe aux côtés du Troisième Reich pour lutter contre le judéo-bolchevisme, il y aurait effectivement motif à porter plainte. Je ne porte pas, enfin, je veux dire, c'est Bernard-Henri Lévy, c'est insignifiant.
Insignifiant, dites-vous ?
Oui, les propos de Bernard-Henri
Lévy. Sur certains combats, quand même, vous vous rejoignez. C'est quelqu'un aussi qui a une pensée qui peut être structurée et des combats,
oui,
que vous avez en commun, non ?
Non.
Bon, notre réponse est claire. En tous les cas, on peut encore dire les choses librement. Aujourd'hui en France, et
ça
vous le
dépend
dites,
où.
Ça dépend où.
Ça dépend où, ça dépend dans quelles circonstances, dans quelles occasions. Et puis, il y a des gens qui se retrouvent au tribunal pour avoir dit un certain nombre de choses, quand d'autres choses peuvent être dites, et qui mériteraient elles aussi le tribunal, et qui ne conduisent pas pour autant les personnages en question au tribunal.
Une liberté de parole qui est la vôtre ce matin, Michel Onfray, que l'on soit d'accord ou pas avec vous. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, et bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1. Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais dans quelques toutes petites secondes. Bon réveil.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Des tests antigéniques et des autotests dès 3 ans. La Haute Autorité de Santé autorise leur utilisation avant 15 ans. Une fois par semaine et réalisée par un adulte pour les plus petits. Outils de dépistage pertinents selon la HAS pour briser les chaînes de contamination à l'école. Autre nouvel élément, ces recommandations sur les gestes barrières pour les personnes vaccinées. Victor Dolande, dans son dernier avis, le Haut Conseil de la Santé publique ouvre la voie à une adaptation des consignes sanitaires.
Oui, il recommande par exemple l'abandon du masque en milieu fermé dans le cadre privé, familial ou amical, mais attention, sous certaines conditions. D'abord, cet avis ne vaut que pour les personnes qui ont reçu les deux doses du vaccin. Et on pourra oublier le masque que si toutes les personnes dans la pièce sont elles aussi vaccinées. Une recommandation logique pour le professeur Daniel Floret, vice-président de la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé.
Heureusement que la vaccination va nous permettre de donner un peu de mou. En famille, chez soi, on reçoit des amis qui sont vaccinés, vous êtes vaccinés. On n'a pas forcément besoin d'avoir le masque, etc. Mais il est trop tôt au jour d'aujourd'hui pour dire que, étant vacciné, tout redevient comme avant. C'est pas vrai.
Trop tôt, car il y a encore des incertitudes sur plusieurs points. L'efficacité des vaccins, notamment sur les variants, sur la durée de protection du vaccin et sur la transmission. Autrement dit, peut-on encore transmettre le virus à quelqu'un alors qu'on est déjà vacciné? En attendant plus de données, le Haut Conseil pour la Santé publique recommande donc aux personnes vaccinées de continuer à faire bien attention et de ne pas totalement abandonner les gestes barrières.
Un respect nécessaire des gestes barrières que s'est vu rappeler le Premier ministre thaïlandais face à la reprise de l'épidémie dans le pays. Alors que de nouvelles restrictions ont été mises en place hier, il a fait l'objet d'une amende pour ne pas avoir porté son masque. En Asie, toujours, l'aide internationale commence à arriver en Inde. Première livraison de matériel britannique ce matin. Un tabou en passe d'être brisé. Déjà, à l'automne dernier, la tribune de Meghan Markle avait ouvert une brèche. Aujourd'hui, c'est un rapport qui enfonce le clou. Dans la revue The Lancet, des chercheurs appellent à ne plus minimiser la fausse couche, Axel May.
Oui, alors d'abord, cette revue médicale britannique de référence estime que dans le monde, plus d'une femme sur 10 a connu cette épreuve. Oui, plus d'une femme sur 10. Au-delà de ce constat chiffré, The Lancet souligne que de nombreuses patientes se plaignent du manque d'empathie du corps médical. Le seul conseil qu'on leur donne, c'est réessayer de faire un enfant. Si je prends l'exemple de la France, ce n'est qu'à partir de la troisième fausse couche spontanée qu'une recherche approfondie des causes sera lancée. En attendant, mettez-vous à la place de la femme. Constat d'échec, sentiment de vide, déprime. Le Collège national des gynécologues et obstétriciens le reconnaît, il y a encore souvent trop d'incompréhension, de honte et d'isolement. Et pour revenir à l'étude de The Lancet, elle recommande donc un suivi psychologique dès la première fausse couche.
Une précision signée Axel May pour Europe 1. Paris et Berlin, côte à côte, la France et l'Allemagne présenteront conjointement aujourd'hui leur plan de relance. Les deux pays qui avaient déjà ferraillé ensemble pour un plan de soutien commun face à la crise sanitaire. La relance qui doit bénéficier notamment aux jeunes. Le Premier ministre doit dévoiler aujourd'hui un simulateur qui leur permettra de calculer les aides auxquelles ils ont droit. Un petit bout de papier et à la fin des kilomètres de feuilles utilisées. Le ticket de caisse voué à la disparition, la loi va l'imposer. Mais déjà, plusieurs enseignes anticipent, Clément Le Saffre.
Oui, c'est une pratique en vigueur depuis déjà plusieurs années chez ProMode, Uniqlo, Etam ou encore Decathlon. La chaîne de magasins de sport propose des tickets dématérialisés envoyés par mail depuis 2018. Et ça marche. Aujourd'hui, 50% des clients choisissent cette option, notamment pour les achats de moins de 10 euros. Et c'est ce qui a guidé la décision de Carrefour qui va proposer des tickets dématérialisés à ses 14 millions d'adhérents au programme de fidélité. Bertrand Zwiderski est le directeur RSE du groupe.
Les consommateurs, nos clients nous l'ont demandé. Ils nous ont fait remonter par les caisses, par des carnets de caisses, par tout notre personnel en caisse. Ils nous ont fait remonter leur envie de ne plus avoir systématiquement le ticket de caisse à chaque passage.
Et derrière cette attente, il y a aussi d'importantes économies de papier dans les enseignes du groupe Casino qui expérimentent les tickets dématérialisés depuis un an. Ce sont 170 000 bouts de papier non imprimés par semaine. Chez Système U, on espère économiser 40 000 km de rouleaux par an, l'équivalent du tour de la Terre. Et puis, il s'agit d'anticiper car la loi prévoit la disparition progressive des tickets papier pour les achats de moins de 30 euros d'ici 2023.
Clément Le Saffre, et puis fin de carrière précipitée pour l'international français Johan Huger, le rugbyman du Stade Toulousain victime le week-end dernier d'une rupture du tendon d'Achille.
Merci Marion Calais, 8h35, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Et des pluies qui sont ce matin peu nombreuses, il faut bien le dire, sur le Piémont pyrénéen, sur le Béarn en particulier, sur la Côte d'Azur aussi, et notamment sur le Vaucluse. Ce sont des pluies qui sont vraiment très très au sud, hein, mais cependant les nuages englobent toute la moitié sud de la France, c'est-à-dire au sud de la Loire. Nous avons et nous aurons une météo essuie-glace en quelque sorte sur l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, un coup il fait sec, un coup il pleut, Massif central, Vallée du Rhône, la région Rhône-Alpes, un ciel très nuageux, donc et parfois orageux dans ces contrées. À Lyon, quand même, de courtes éclaircies. Et puis le beau temps pour la Bretagne, la Normandie, la Picardie, le Nord, les Pays de la Loire, le Centre, la Bourgogne, Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne, région parisienne, Franche-Comté. Je n'oubliais personne. Il fera beau dans ces contrées. Profitez-en avec moins de vent. Et donc la journée s'annonce très agréable. 17 à Lille, 18 à Toulouse, température maximale, vous l'avez compris. Nancy, Épinal, 19. 20 degrés à La Rochelle et Vichy. 21 à Poitiers et 22 à Lyon.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Dans 10 minutes, même pas, Nicolas Canteloup, la revue de presse. On va retrouver Fanny Agostini, notre planète. Mais tout de suite, notre santé, Jimmy Mohamed.
Et je vais vous parler d'obésité de l'enfant et du fait que probablement tout se joue dès le plus jeune âge, notamment au niveau des comportements alimentaires.
A tout de suite sur Europe 1, 8h36.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Belliard.
8h38 sur Europe. Notre santé avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Jimmy, vous allez nous parler d'une étude ce matin qui rappelle l'importance d'une alimentation saine dans l'apparition de l'obésité de l'enfant. Et cela dès le plus jeune âge.
Exactement. Alors on le sait, l'obésité c'est une maladie complexe qui ne se résume pas à une mauvaise alimentation, mais malgré tout, une hygiène de vie inadaptée, comme une activité physique insuffisante ou un régime alimentaire déséquilibré, peuvent la favoriser en particulier chez les enfants. Sauf qu'on ne savait pas à partir de quel âge ces mauvaises habitudes pouvaient avoir un impact sur le poids de l'enfant à naître et à grandir, jusqu'à cette étude australienne qui s'intéressait à des enfants, des tout petits enfants âgés de seulement 18 mois, qu'on a répartis grosso modo en deux groupes. Un groupe avec un mode de vie qu'on appelle sain, c'est-à-dire une consommation régulière de fruits et de légumes, ainsi qu'une activité physique adaptée. Et puis un autre groupe qui avait une alimentation sucrée et grasse et qui passait malheureusement beaucoup de temps derrière les écrans. Eh bien, le groupe d'enfants qui avait un régime alimentaire inadapté et qui pratiquait peu d'activité physique a vu son poids augmenter tranquillement jusqu'à l'âge de 5 ans avant de basculer vers du surpoids et de l'obésité infantile. En d'autres termes, dès l'âge de 18 mois et probablement bien avant, chez les tout-petits, il est possible d'influencer sur le poids des enfants avec de simples comportements et probablement que nous faisons le lit de l'obésité dès le plus jeune âge, car on a tendance à croire qu'on doit laisser tranquille un enfant d'un an, un an et demi en termes d'alimentation qu'il finira par se rattraper. Nous devons donc prendre conscience de l'importance de la petite enfance comme une période critique pour le développement du surpoids et de l'obésité de l'enfant.
Alors, on comprend donc que tout se joue très tôt, mais avec quelles conséquences pour l'enfant qui souffrirait d'obésité ?
Alors d'abord, je vous rappelle qu'en France, un adulte sur deux est en surpoids ou en situation d'obésité. Et n'oubliez pas qu'un enfant en surpoids, eh bien, c'est un enfant qui souffre psychologiquement, même si ce dernier ne va pas l'exprimer. On le sait, les camarades ne sont pas souvent tendres entre eux. Et puis même au sein d'une fratrie, cette situation peut être difficile. Et ça, c'est sans vous parler des complications métaboliques du surpoids, avec l'apparition de l'hypertension qui est de plus en plus fréquente et de plus en plus jeune chez les enfants. Et ça va aussi de pair avec d'autres complications, comme le diabète de type 2 ou même l'apnée du sommeil, notamment aux États-Unis, Penny qui connaît une véritable épidémie d'obésité chez les adolescents. Et sans vous parler des carences, car paradoxalement, un enfant obèse, eh bien finalement, c'est un enfant qui va être carencé en vitamines, mais aussi en fer. Alors pour prévenir ce phénomène, allez voir régulièrement votre pédiatre ou votre médecin traitant, au minimum une fois par an. Même lorsque tout va bien, il va contrôler le poids et la taille des enfants, que vous devez rapporter sur la fameuse courbe de croissance, car le poids pris séparément n'a que peu d'intérêt. On doit le comparer au poids et à la taille des autres enfants du même âge et calculer le fameux IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle. Et puis, la meilleure des préventions débute probablement aussi par un peu d'activité physique. Comptez au minimum 60 minutes par jour pour les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans.
Merci Jimmy Mohamed. Oui, de l'activité physique, il faut les faire bouger. On vous retrouve à 15h Jimmy pour son rendez-vous avec Mélanie Gomez.
Et oui, on va parler des soins naturels chez le sportif car ça ne s'improvise pas. Et on recevra le docteur Quick Marinier et les docteurs en pharmacie.
A tout à l'heure, 15h pour son rendez-vous. Notre planète à présent avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et vous nous parlez ce matin, Fanny, d'un nouveau genre de papier qui permet de ne plus utiliser les arbres, mais de la pierre.
Mais oui, je vous propose ce matin d'écrire sur un papier
minérale. Le papier de pierre, c'est en fait une invention taïwanaise qui a fait son chemin dans le monde avant de rejoindre la France en 2017. Il est fait à base de pierres recyclées broyées et un petit peu de polyéthylène. Il a la particularité, ce papier, d'être imperméable et contrairement au papier classique que nous connaissons tous, il est difficilement déchirable. Il a une composition et une texture qui lui permettent pas vraiment de remplacer totalement le papier de bois dans tous ses usages, mais il pourrait néanmoins drastiquement diminuer la consommation de papier et de plastique dans les domaines des étiquettes, par exemple des emballages alimentaires, des menus de restaurants ou même des affiches extérieures, des objets qui sont souvent exposés aux intempéries et aux salissures.
Vous dites que ce papier est fabriqué avec des sous-produits qui sont habituellement considérés comme des déchets.
Mais oui, comme les gravats de chantier par exemple, le BTP peut être une source d'approvisionnement très importante. Ce papier qui allie le minéral et le polyéthylène est en plus recyclable pendant presque 100 ans. Un taux de recyclage d'autant plus intéressant que sa fabrication est moins consommatrice de ressources. Tenez, pour une tonne de papier de pierre par exemple, il faut 800 kg de pierre broyée et 200 de plastique contre 2 tonnes de bois et plus de 60 000 litres d'eau. Donc on évite non seulement une énorme consommation d'eau, mais aussi l'utilisation de blanchissants polluants. Hein. Pour blanchir le papier, c'est souvent des produits ultra chimiques. Et la poudre de calcium qui compose la poudre de pierre, elle est déjà très blanche. La cerise sur le gâteau, c'est que la production de papier de pierre émet jusqu'à 75% de CO2 en moins que son équivalent fait avec le bois.
C'est une solution ingénieuse. Je découvre complètement ce papier minéral. Une solution ingénieuse typiquement une solution complètement en phase avec ce qu'on appelle l'économie circulaire.
C'est exactement ça, Mathieu. Une économie dans laquelle les déchets n'existent plus car ils sont sans cesse réemployés. Deux paramètres, toutefois, sont à ajuster pour que l'utilisation du papier de pierre se généralise et soit complètement écologique. Sa fabrication, déjà, doit être localisée en profitant des ressources en minéraux du continent européen car pour l'instant, faut le dire, le papier de pierre est importé d'Asie. Et puis, une vraie filière du recyclage du papier de pierre doit voir le jour pour permettre de pleinement mettre à profit son potentiel d'économie circulaire. Alors en attendant, lorsque vous en aurez entre les mains de ce papier de pierre, essayez de le déchirer ou de l'imbiber d'eau ou bien de le couper. C'est vraiment une matière qui est bluffante et qui donne envie d'abandonner le papier issu de l'abattage des arbres.
Merci. Alors Fanny Agostini, je connaissais le papier de riz, le papier d'Arménie, mais pas le papier de pierre encore.
C'est nouveau.
Merci Fanny Agostini.
Des petits papiers à l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler.
Et vous l'aurez dans la tête toute la journée. Je vois Julie qui est déjà en train de danser au studio. Ça fait plaisir, Régine, comme ça, pour démarrer la journée.
On adore.
Voilà, ouais. Julie qui est déjà là, vous l'avez entendu. Dans un instant, Nicolas Canteloup arrive pour la revue de presse. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on retrouve tout de suite Mathieu Béliard pour les infos du jour.
Oui, bonjour Julie, bonjour Julie. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde changer. Mais pas tout de suite. Regarde le monde changer à la mi-mai, hein, qui se situe, je rappelle, on en parlait avec Bertrand Chaperon, la mi-mai entre la mi-mai et fin septembre. Voilà. L'info du jour, c'est Emmanuel Macron qui a entrouvert la porte à un assouplissement du couvre-feu en déclarant 19h, c'est trop tôt. Bon, après, je ne voudrais pas prendre parti, parce que ce n'est pas mon rôle. Je n'ai pas fait l'ENA, Julie, mais a priori, le bah oui. A priori, le principe d'un couvre-feu, bah, c'est d'être trop tôt. Hein. Parce qu'un couvre-feu trop tard, c'est quand même beaucoup moins efficace.
C'est vrai.
Vous voyez, c'est d'avoir reçu Michel Onfray, ça m'a rendu philosophe et peut-être plus intelligent et plus clairvoyant. Allez, l'autre info, c'est l'Union européenne qui attaque AstraZeneca en justice pour ses retards de livraison. C'est vrai, c'est scandaleux. Vous imaginez tous ces gens qui attendent encore avec impatience d'avoir leur thrombose. C'est vrai. Allez, on se dépêche, les gars, chez AstraZeneca.
Merci, Mathieu. Et on commence par une bonne nouvelle. Tiens, une bonne nouvelle pour la culture. L'écrivain Florian Zeller a donc reçu l'Oscar du meilleur scénario à Hollywood. Roselyne Bachelot, une réaction ?
Une réaction, mais je m'en fous, moi. Mais va te faire cuire le derche, Zeller.
Enfin, mais vous êtes ministre de la Culture, vous devriez être contente.
Non, contente, non, c'est du cinéma français.
Eh ben
français. Alors. Eh bien, le cinéma français, ma chère Julie, je le déteste. Hein il m'a, oui, il m'a humilié au César. Et en plus, ils m'ont refilé le Covid, ces cons-là. Alors, son Oscar Zeller, il peut se le carrer où je pense.
Oh, mais enfin, c'est génial que dans la Mecque du cinéma, soit un Français qui a écrit le meilleur scénario, quand même.
Mais tu parles d'un scénario. Il gagne un Oscar. Un Oscar, le truc qui arrive une fois tous les 20 temps. Et la soirée d'après Oscar, c'était pas dans la Villa Adriana avec Leonardo DiCaprio, non, c'était dans son salon de banquette exclusif avec Bertrand de la Villardière.
Bernard.
C'est un loser, ce Florian Zeller.
Bon, bah, nous on trouve que c'est super cet Oscar hein, pour son film Le Père. En plus, Florian Zeller commence le tournage de son prochain film, Le Fils.
Donc après le père, le fils.
Eh ben.
Oh, quelle imagination, ce scénariste Florian Zeller. Et après le père et le fils, il y aura quoi? Le Saint-Esprit, c'est ça qu'il va nous écrire? Ou ta mère, hein, peut-être? Non, mais écoutez, ils m'ont saoulé tous ces chevelus du cinéma français. Tiens, vous savez quoi? Je vais reprolonger la fermeture des cinémas d'un mois.
Non,
voilà, pendant
ça.
Votre
non,
gueule.
Non.
Ils me font chier. Ils se gardent dans le cul, tout
mais
ça.
Mais là. Calmez-vous. Oh, merci, Rodrigue.
J'ai fait les grosses têtes, hein, je sais de quoi je parle.
Ça ira pour aujourd'hui. 19h, c'est trop tôt. C'était donc la phrase politique du jour lâchée hier par le président lors de la visite d'une école à Melun. Bonjour, monsieur Macron.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, premier constat, si 19h, c'est trop tôt, si ça, c'est la grande phrase politique du moment, comme vous venez de le dire, c'est que le niveau baisse sérieusement.
Enfin bon, vous répondiez à une enfant dans une classe, voilà.
Oui, je réponds plus aux enfants qu'aux journalistes, vous avez remarqué. Effectivement, j'ai dit à cet enfant, 19h, c'est tôt. Et ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai ajouté, et quand ton fonctionnaire de père, il finit de bosser à 16h, c'est pas trop tôt, là hein? C'est pas avec des feignasses comme ton rep qu'on va relancer la croissance.
Oh là là.
Oui, parce que j'aime le parler vrai.
Oui, et vous savez parler aux enfants. Alors, on l'a dit, avec Roselyne Bachelot, l'écrivain Florian Zeller a décroché un Oscar à Los Angeles. C'est formidable, ça.
Formidable, oui, parce que... Voyez-vous, Florian Zeller fait partie des Français remarquables qui sont au nombre de trois. Ah. Il y a Thomas Pesquet, le spationaute, Florian Zeller et moi. Donc trois Français compétents sur 65 millions, dont il faut le noter quand même, un dans l'espace. Donc il n'en reste plus que deux vraiment sur Terre. C'est bien, mais ce n'est pas assez pour tirer un pays vers le haut.
Merci, monsieur le Président. Emmanuel Macron qui a estimé que les restaurants pourraient rouvrir fin mai, début juin, dans les départements où la circulation du virus a beaucoup baissé. Bonjour Bruno Le Maire.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard et bonjour à tous vos aimables sous-fifres. Oui, sur ce sujet, il n'y a pas de débat. Nous pourrons rouvrir sans doute les restaurants dans les départements où il n'y aura plus de circulation du virus. Quels sont ces départements? C'est-à-dire, ce sont les départements où il n'y a pas trop d'habitants. Bref, pour résumer, les restaurants pourront rouvrir uniquement dans les coins où il n'y a pas de clients.
Ça n'exagère en rien.
Ça, c'est une vraie pensée.
Oh, dis donc, oui.
C'est du Michel Onfray, quasiment.
Ouais, oh, bah oui. On prolonge l'interview de Sonia Mabrouk. À part ça, vous avez reparlé hier de la réforme des retraites. Elle va revenir sur le tapis, donc, cette réforme.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Il va falloir rapidement boucler cette réforme des retraites car nous avons perdu beaucoup moins de retraités que ce que nous espérions en début de pandémie.
Non, c'est pas vrai.
Non, mais maintenant qu'on consomme de plus en plus de yeux, la donne n'est plus la même, hein, Julie. Il faut être réaliste, il faut que j'adapte mes chiffres.
Non, mais c'est d'un cynisme ce que vous dites là.
Écoutez, on ne va pas se mentir. Arrêtez de râler sans arrêt. Vous n'êtes jamais contents, les journalistes. Quand on n'arrivait pas à soigner les vieux ou quand on les vaccinait trop lentement, vous râlez. Et maintenant qu'on les sauve tous et qu'ils coûtent cher, vous râlez aussi. Il faut choisir. On ne peut pas leur permettre de vivre et leur permettre de manger.
Oh là là.
C'est soit l'un, soit l'autre.
Oh là là là. Bon, on arrête là, hein, je crois. Merci Bruno Le Maire. Merci.
Du Onfray. Hein.
Le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Franck McCourt, a publié une tribune dans Le Monde dans laquelle il s'oppose au projet de Super League. Vous savez, ce projet porté par les grands clubs européens. Bonjour Jean-Claude Godin.
Ah bonjour Madame Julie, Monsieur Béliard, Martin Lange, Simon Rubin, salut tout le monde, Monsieur Cabrol bien sûr, bonjour à tous les supporters de l'OM qui nous écoutent ce matin, oui c'est Jean-Claude Godin, le supporter, Jean-Claude qui vous parle,
Oui, celui qui aimait aller au stade pour chanter avec ses amis, admirer les joueurs, boire une bière, payer un arbitre, tous ces petits plaisirs qu'on aime se faire au Vélodrome.
Bah, alors cette Super League, c'était un projet de championnat privé entre une vingtaine de clubs, Madrid, Barcelone, Chelsea, le Milan AC, et l'OM était invité à l'intégrer. Franck McCourt y voit un manque d'éthique.
Manque d'éthique, absolument. Il n'y a aucune éthique dans ce projet de margoulin, disons les mots. Non, mais vous avez vu les réactions des supporters d'ailleurs. Aucun fan de l'OM ne veut le voir intégrer un championnat privé où il se prendra une branlée par le Milan AC, puis une branlée par le Real, puis une branlée par le Barça. Le Barça. Non, franchement, où est l'éthique, Madame Julie ? Monsieur Béliard, je vous prends témoin. On est un club de foot, non, pas non. Un paillasson.
Ah, bah, c'est ça qui vous embête, hein, les branlées.
Mais oui, mais oui, mais. Au moins, mais écoutez, Madame Julie, au moins quand on joue contre Dijon, on a une chance de gagner. Bon, petite, certes, mais on a une chance quand même.
Allez, merci Jean-Claude Gaudin. Toujours sur ce projet avorté de Super League, on accueille Kylian Mbappé, bonjour.
Oui, bonjour Mbappé.
Les 12 clubs les plus riches de la planète voulaient donc créer un championnat entre eux à la place de la Ligue des Champions, mais le PSG a dit non, ce qui a lancé la fronde et fait capoter le projet en fait.
Oui, tout à fait, car nous au PSG, nous détestons ce monde pourri par le fric.
Oula, c'est bizarre, mais il y a un truc qui sonne faux là, je trouve.
Oui, pardonnez-moi ma chère Julie.
Ah, mais là, il y a Nelson Montfort.
Oui, pardon, ma chère Julie. Excusez-moi.
Salut Nelson.
Bonjour, excusez-moi. Bonjour, oui, je me rappelle que je parle toutes les langues, y compris la langue de bois. Je vais donc essayer, si vous permettez, tenter de traduire à la mesure de mes moyens ce qu'essaye de nous dire Kylian.
Ah, parfait.
Allez-y, mon cher Kylian.
Non, je dis juste qu'au PSG, ces clubs de milliardaires nous dégoûtent. Nous, ce qu'on aime, ce sont les valeurs du sport avant tout.
Oula.
Oui, donc a priori, Kylian, si j'ai bien entendu, nous dit que le PSG appartient au Qatar et que le Qatar possède la chaîne Bein Sport, Bein qui a les droits de la Ligue des Champions. Donc si les grands clubs quittent la Ligue des Champions, Bein Sport va devenir tout pourri et un véritable gouffre à pognon.
Il a dit tout ça.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que le PSG veut garder la Ligue des Champions et je pense que c'est important dans une compétition que des petits clubs y participent et qu'il n'y a pas que l'argent de la vie.
Oula.
Voilà, oui, Kylian nous dit également donc, que le Qatar est le pays organisateur de la prochaine Coupe du Monde et donc qu'ils étaient liés de fait avec la FIFA. FIFA a donc complètement niqué dans cette histoire. La seule solution était donc de passer pour des héros.
Oui, donc alors vive le PSG, vive le sport bien sûr.
Oui, Kylian vient de demander à l'instant, vous avez entendu, 300 millions pour son prochain club.
Oh, bah c'est quand même plus clair avec les traductions de Nelson.
Je vous remercie, ma chère Julie.
C'est ça que ça voulait dire, vive le PSG. Alors, bravo, ben oui. Nicolas Canteloup, ses auteurs, évidemment, Philippe Cabrivia, Laurent Vassilion, Arnaud Demanche. Et merci à Julie, qu'on retrouve demain matin.
Demain.
Évidemment, la revue de presse. Alors, demain matin, 8h45, bien sûr, mais... Si vous n'arrivez pas à attendre, il y a le podcast. Vous la retrouvez, c'est... Pardon, c'est sur
Europe 1.fr, le podcast, hein,
évidemment.
À tout moment de la journée. Matin,
8h55, Philippe Vandel est avec nous, Culture Média. C'est la matinée qui continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu, notre info média du jour, c'est un grand projet mené par 60 journalistes dans 25 médias différents pour enquêter sur le Mexique, le pays le plus dangereux pour la presse dans le monde. Et de cette collaboration est né un documentaire poignant, Mexique, le silence ou la mort, poignant et édifiant. On est au cœur des cartels et des nombreuses connexions. On en parle avec son réalisateur, Jules Giroda. Au sommaire également, les coulisses d'un sujet qui fait souvent polémique, l'école à la maison.
N'est-ce pas?
Comment les enfants peuvent-ils se développer dans un environnement exclusivement familial? Vous connaissez le chiffre? 62 000 enfants en France. Élément de réponse avec sa réalisatrice de documentaire, Katia Champoutier. Elle a suivi pendant un an 4 familles. Et puis la comédienne Florence Pernel qui incarne une proviseure dans l'école de la vie, la nouvelle série de France 2 sur la vie d'un lycée. Et vous l'entendrez, son parcours est totalement étonnant.
Et c'est lié finalement. Culture Média, de 9h à 11h.
Hommage à Jules Ferry. Ouais.
Avec Philippe Vandel et toute son équipe bien sûr. Moi je vais vous souhaiter une très belle journée. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.